Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet.
Vous interrogez aujourd'hui dans les enjeux internationaux la politique alimentaire de la Chine.
Et non seulement je vais m'interroger, mais je vais interroger notre invité Thierry Pouche, qui est chercheur associé à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Alors un livre évidemment très précieux pour le non-spécialiste également, c'est « La Chine au risque de la dépendance alimentaire ». C'est aux presses universitaires de Rennes. C'est en co-rédaction avec Jean-Marc Chaumet, qui est agronome, ce qui ne peut pas gêner. Et donc on va parler effectivement de la façon dont on peut nourrir 1,4 milliard d'habitants, je dis cela en gros en arrondissant les chiffres. Alors on le sait, la Chine est le premier exportateur mondial depuis 2009, elle a dépassé à ce moment-là l'Allemagne en tant que telle, le deuxième PIB devant attraper et dépasser les États-Unis dans les années 2020. Elle reste pourtant très dépendante dans plusieurs domaines, on le sait les énergies, on le sait les produits d'assemblage puisque c'est une usine d'assemblage, et puis l'alimentation, ce qui est moins connu. Thierry Pouche, alors le pays, il faut le rappeler, était un peuple de paysans à la fin des années 40, fin de la guerre civile en 49, et on disait, en tout cas on dit dans les livres, 80% peut-être de paysans à ce moment-là. Aujourd'hui, vous allez nous dire à peu près combien de population paysanne, agricole, et puis il faut rappeler aussi que la Chine a été secouée par ce fameux grand bond en avant de 58 à 61, qui est imposé par les autorités avec une rare violence, et qui a saigné à blanc une partie de la paysannerie, et évidemment il faudra parler des réformes Deng Xiaoping. Alors pourquoi d'ailleurs juste Thierry Pouche un livre sur cette question-là? Il manquait peut-être?
Comme vous l'avez dit Thierry Garcin, la Chine a connu un essor économique absolument fulgurant et sur une période finalement relativement courte, au gré des réformes engagées à la fin des années 70. Mais les observateurs, les chercheurs, les économistes se sont concentrés sur l'essor industriel. Donc c'est devenu l'atelier du monde. Et effectivement, on s'est peu interrogé ensuite sur la question alimentaire. C'est-à-dire que c'est un pays pour lequel l'agriculture est extrêmement importante. En 80, il y avait encore 85% de la population active qui était agriculteur. Donc, il y avait un paradoxe entre un essor économique important, le fait que ce soit devenu la première puissance commerciale du monde, mais que en même temps, quand on regarde aussi l'évolution du commerce extérieur de produits agricoles et alimentaires, c'est un très lourd déficit qu'enregistre la Chine. Donc on voit bien que là, en plus d'un certain nombre d'autres contraintes internes, dont on va peut-être parler, la Chine s'expose aujourd'hui, comme on l'a intitulé, au risque de la dépendance alimentaire, ce qui peut avoir des conséquences géoéconomiques et géopolitiques absolument considérables.
Oui, et votre préfacière donc dit qu'il s'agit d'ailleurs d'un facteur peut-être déstabilisant pour le système, sinon pour le régime, pour le système, votre préfacière Marie-Françoise Renard.
Exactement, parce que la Chine, qui absorbe déjà énormément de matières premières, pas forcément agricoles d'ailleurs, peut exercer des pressions sur les prix, notamment à la hausse, qui peuvent déstabiliser les pays qui ont aussi besoin de ces matières premières agricoles pour se nourrir. Et donc ça peut entraîner une déstabilisation, une instabilité sociopolitique dans les pays les plus pauvres, parce que la Chine siphonne finalement des quantités de matières premières agricoles extrêmement importantes.
Et également des matières premières agricoles pour l'alimentation des animaux.
Voilà, c'est ça.
Je me rappelle autrefois, on parlait du soja, et qu'elle était très dépendante. Je crois que 2/3 du soja allait en Chine, c'est ça?
Ah, aujourd'hui, enfin, je cite de mémoire. La Chine absorbe près de 70% des flux commerciaux de soja. Elle a fait une croix sur sa production de soja. Il y en a encore un peu, mais c'est largement pas suffisant. Et ça, c'est le résultat d'une transition d'une consommation de produits végétaux vers une consommation maintenant importante de produits animaux. Donc les productions animales internes nécessitent énormément de biens pour de produits agricoles pour la consommation des animaux. Donc elle importe énormément et on voit aujourd'hui que son degré de dépendance commence aussi à augmenter en maïs, en blé, selon les années, mais c'est quelque chose qui commence à être assez structurel finalement. La consommation de viande connaît une croissance absolument formidable en Chine du fait de la constitution d'une classe moyenne, de l'urbanisation, voilà.
Alors, juste d'un mot, on est en droit de se poser la question, l'accession à la propriété, alors on se connaît l'attachement du paysan à la terre. et à sa terre.
Plutôt. Exactement. Et il y a eu, au fil des années, pour le dire assez rapidement, des formes de privatisation en Chine pour les exploitants agricoles, mais qui évidemment pose aussi un autre problème. C'est la taille de ces exploitations qui est largement insuffisante aujourd'hui. Ce sont des petites structures en moyenne qui posent le problème donc de l'efficacité de ces structures d'exploitation agricole.
Alors d'autres contraintes, j'ai vu évidemment automatiquement, on pense tout de suite à l'eau pour l'agriculture.
Oui, alors l'eau est un véritable problème, une contrainte d'une extrême importance. C'est un pays qui détient énormément de réserves d'eau, mais qui sont très mal réparties. C'est-à-dire que dans les régions où l'activité agricole est importante, il y a peu d'eau. Donc ça pose un énorme problème, notamment pour l'irrigation, évidemment.
Alors, et également, vous avez des contraintes, j'ai vu que vous soulignez, c'est donc les petites superficies, l'eau, et puis alors, évidemment, le besoin d'engrais et d'importation d'engrais. C'est important.
La Chine importe, est le premier consommateur mondial d'engrais, effectivement.
Est-ce qu'on lui en vend beaucoup, puisqu'on sait faire ça en France?
Oui, nous en vendons, évidemment, puisque la France est un des principaux exportateurs mondiaux de semences et d'engrais.
C'est le côté positif, au moins, de sa dépendance.
Oui, bien sûr, la dépendance peut avoir des effets positifs pour les autres pays qui exportent, évidemment. Hein. Ça peut être le cas de pas mal de pays d'Amérique latine, notamment. Mais il y a aussi une autre contrainte dont il faut parler, c'est la contrainte du foncier, c'est-à-dire que la disponibilité en terre pose problème aujourd'hui pour la Chine. On est à peu près à 0,09 hectares par habitant pour une moyenne mondiale de 0,24 hectares par habitant.
Donc, alors 0,09 par rapport à 0,24.
Voilà, c'est ça. Donc,
mais ça paraît absolument considérable.
Ça paraît considérable et ça pose problème. Et les autorités ont du mal à maintenir un seuil de 120 millions d'hectares de terres cultivables.
Alors votre postfacier, j'ai regardé tout à l'heure dans le, pas de Larousse mais le Robert, le terme n'existait pas, mais votre postfacier, Michel Griffon, dit que cette affaire-là est une affaire, l'alimentation de la Chine, une affaire autant ou sinon plus géopolitique qu'économique. Dans la dépendance, effectivement, du reste du monde à ce que fait ou ce que ne fait pas la Chine.
On ne va pas contredire notre préfacier, évidemment. Mais effectivement, ne serait-ce qu'à travers le prisme des investissements chinois dans le foncier agricole dans le monde, ça peut entraîner des formes de déstabilisation intérieure qui peuvent conditionner des conflits régionaux. On l'a vu dans le passé avec Madagascar, notamment avec l'investisseur coréen Daewoo, qui avait entraîner un soulèvement de la population paysanne. Donc ça peut avoir des conséquences internationales importantes.
Les changements de vie de la société créent de nouvelles habitudes alimentaires. On a cité souvent pour les classes moyennes chinoises le fait qu'elles se dirigeaient vers d'autres modes d'alimentation, justement viande et autres. Je crois que c'est surtout la viande de porc en Chine.
Alors il y a la viande de porc, mais il y a aussi la viande bovine. Et pour la viande de porc, ça pose un problème puisque la Chine est le premier producteur mondial de viande porcine. Mais il y a des disponibilités de moins en moins importante et en plus des problèmes sanitaires très graves qui conduisent la Chine à importer de plus en plus de viande porcine en provenance de l'étranger. Donc la viande porcine, la viande bovine, mais ce sont aussi les produits laitiers qui là aussi doivent être reliés au scandale sanitaire qu'on a connu dans les années passées avec la mélamine dans le lait qui a obligé la Chine non seulement à importer massivement mais à investir aussi dans des outils de production européens en Bretagne, en Normandie par exemple, ou à racheter des exploitations laitières en Nouvelle-Zélande.
Grand bien nous fasse pour leur grand malheur, mais voilà. Donc on est bien d'accord, c'est un sujet considérable.
Tout à fait.
Et avec des graphiques que vous donnez qui sont même très significatifs pour le non spécialiste. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage. Alors en co-rédaction avec Jean-Marc Chaumet, vous m'avez dit qu'il était en plus, j'ai repéré des idéogrammes chinois.
Oui, mon collègue Jean-Marc Chaumet.
On l'envie en tout cas.
On parle la langue, oui.
Bravo. Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouche, la Chine au risque de la dépendance alimentaire aux presses universitaires de Rennes et FranceCulture.fr pour écouter l'émission.